On est le lundi 13 décembre, il est 7h39. C'est le premier jour de la dernière semaine avant les pauses. Faut pas perdre le cap. Le cap, c'est commencer à réfléchir à ce qui nous restera, à nous, victimes, à faire une fois que le procès sera terminé. Parce qu'envoyer des mecs en prison va pas du tout régler nos problèmes.
Tout au long des 10 mois qu'a duré ce procès, Arthur a beaucoup réfléchi au sens et à ce que représentait une condamnation dans un dossier terroriste. Alors qu'approche le mois de juin, et avec lui le verdict, cette question s'est faite plus prégnante encore. Certaines peines seront lourdes, cela n'a jamais fait aucun doute. C'est aussi pour cette raison qu'Arthur s'est interrogé sur la question de l'emprisonnement à perpétuité, de la réhabilitation ou non de ces hommes. En tant que président d'une association de victimes, il a même tenu à se rendre dans une prison pour comprendre la réalité derrière le verdict. Puis est venu début juin, l'heure du réquisitoire, les peines demandées par les avocats généraux, et enfin, le 29 juin, l'énoncé des condamnations et la fin de V13, mais pas tout à fait la fin de ce podcast, vous l'entendrez. 13 novembre, 3 voix pour un procès, épisode 11, le sens de la peine.
Vendredi, je suis allé visiter une prison. Une prison où passe des djihadistes quand ils sont incarcérés une prison dans laquelle certains des condamnés du procès, je pense, pourraient aller, ceux qui sont pas condamnés à des peines trop longues et qui n'iront pas en maison d'arrêt. Je voulais faire ça pour moi, comprendre un peu à quoi ressemblait l'endroit où on allait envoyer ceux qui seraient condamnés à ce procès. Je ne me vois pas commenter les peines, mais je pense que je vais devoir le faire, et je ne me vois en tout cas pas le faire sans savoir à quoi ça correspond, ces années de vie derrière les barreaux. C'est vraiment un monde à part. C'est un monde qui m'a pas forcément l'air de briser les gens s'ils y restent pas trop longtemps. C'est sûr que, évidemment, ça fait pas du bien, mais je pense que, par rapport à l'image que j'en avais, en tout cas, il y a plus d'espoir de formation, de réinsertion et de lien avec le monde extérieur que ce que j'espérais. Et donc voilà, voir ce milieu carcéral, imaginer des gens enfermés là pendant des années pour contrebalancer le mal qui a été fait le 13 novembre et à la société et aux victimes et à moi, c'est quand même étrange. J'ai l'impression que c'est faute de mieux qu'on fait ça. Et qui a là aussi besoin d'une réflexion globale.
Ça m'a refait penser à cette anecdote, je ne sais pas si je vous l'avais racontée, où j'étais avec mes enfants, place d'enfer. Et on entend les sirènes des escortes, le convoi des accusés qui va des prisons, je les crois souvent, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, qui va de Fleury, en fait, jusqu'au palais de justice et qui passe par là. Je vois que ça inquiète mon fils de voir tous ces gyrophares et tout, voilà, et les sirènes, la police, ça va vite, etc. Et donc il me demande, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je lui dis, voilà, ce sont les accusés qui vont à l'audience. Mais ils viennent d'où, maman, les accusés? Bah, ils viennent de la prison. Et il marque un temps d'arrêt, il réfléchit, puis il revient vers moi. Et là, il me dit, mais je comprends pas, le procès, c'est pour déterminer leur punition. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont déjà en prison? Et en fait, j'ai trouvé que dans cette question d'un enfant de 7 ans, il y avait beaucoup de choses, en fait. Sur le fait que nous, on juge complètement normal la détention provisoire. Et je suis pas en train de dire qu'il faudrait pas qu'elle le soit, hein, mais c'est sans doute sain intellectuellement de se reposer la question de temps en temps.
Place aujourd'hui au réquisitoire au procès des attentats du 13 novembre. Les avocats généraux prennent la parole ce midi pour se relayer sur 3 jours, Charlotte Piré.
3 jours et environ 14 heures durant, les 3 avocats généraux vont se relayer toutes les 2 heures pour tenir sur la durée et tenter de convaincre élément par élément des charges qui pèsent contre chacun des accusés et des condamnations qu'il convient, selon eux, de prononcer à leur encontre.
D'abord, l'avocat général le démontre au fil d'une chronologie depuis de 2 heures. Elle détaille le parcours des 14 clandestins, matin leurs départs échelonnés depuis la Syrie pour renforcer la tête de pont belge. Le compte à rebours, dit-elle, est commencé.
15 heures de réquisitoire à trois voies pendant trois jours. Et sans surprise, Sophie, c'est contre Salah Abdeslam que la peine la plus lourde a été requise.
Exactement, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour l'accusation. Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos parisiens, reste idéologiquement, comme il l'a dit dès le premier jour, un combattant de l'État islamique qui a déposé trois bombes humaines au Stade de France. Il a du sang sur la conscience.
On est le 10 juin, il est 19h. Et je rentre du palais. C'était le dernier jour des réquisitions. Et c'était à mes yeux assez fabuleux. La seule demande qu'on avait pu exprimer aux avocats généraux, c'était la pédagogie. C'était la clarté de pourquoi et comment est-ce qu'ils allaient demander telle peine. C'était de se dire qu'après autant de mois de procès, il fallait pas laisser de doute sur les motivations qu'ils auraient à prononcer les peines. Et ça a été assez assez vertigineux d'entendre disséquer un mélange du dossier et de ce qui s'était dit à l'audience de manière très claire et d'entendre les peines qui allaient avec. Alors quelque part je me dis que ce qui me semble important, c'est qu'il s'est parlé de donner les peines maximum prévues pour un certain nombre d'accusés. Ça rappelle la gravité des faits.
La plupart sont des peines lourdes, très lourdes. L'avocat général le justifie d'emblée à la lumière de l'exceptionnelle gravité des crimes commis, des souffrances physiques et psychiques qu'ils ont engendrées. Elle l'admet, la prison est souvent un temps mis à profit par les terroristes. Nous sommes sans illusion sur ce que représente cette sanction carcérale, mais c'est la seule réponse acceptable pour protéger la société.
Salut, on est 10 juin, il est 22h22 et j'ai l'impression d'avoir vraiment... une thèse à vous raconter, mais voilà. On entend souvent dans les légendes d'avocats que avant il y avait des mecs un peu comme nous qui se levaient, ils allaient plaider pour des personnes contre qui la peine de mort était requise. Et on a une espèce de fantasme comme ça de se dire, mais comment est-ce qu'on aurait été, nous, si on avait eu à prendre la parole un jour alors que la peine de mort avait été requise contre quelqu'un. Et pourquoi j'y pense? Parce que mine de rien, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça y ressemble un peu, parce que c'est la première fois, en tout cas pour moi, et je pense en réalité qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres de cas comme ça, où en fait on avait requis des peines perpétuelles, qui sont d'une certaine manière assez proches des peines de mort. Et ça a été requis aujourd'hui, donc j'ai ce sentiment qui me fait un petit peu froid dans le dos, parce que ces trois avocats généraux ont développé un argument qui consiste à dire que bah il y a des gens pour lesquels il n'y a pas de retour possible. Et je me souviens d'une phrase de Badinter qui disait que quand il plaidait contre la peine de mort, il disait que ne plus croire en l'être humain, ne plus croire en sa possibilité de changer, c'est perdre foi en l'humanité, et c'est perdre un fondamental qu'on a tous, qui est l'espérance en fait. Je trouve que quand on entend quelqu'un requérir de cette manière aussi intelligente, dire qu'il n'y a pas de possibilité de pour eux de retour en arrière, donc on leur met la peine maximale, c'est-à-dire perpétuité incompressible, c'est que quelque part on a un peu perdu foi en l'espoir.
Quel défi, quelle gageure même, que de défendre celui qui fut l'ennemi public numéro un et qui risque aujourd'hui la perpétuité incompressible. Tout à l'heure, devant la cour d'assises spéciale, les avocats de Salah Abdeslam vont tenter de convaincre qu'il y a encore un peu de lumière au bout du tunnel.
Un travail d'équipe, c'est ainsi qu'ils le qualifient, maître Olivia Ronen, maître Martin Vett. Ils se connaissent depuis 10 ans, partagent la même vision du métier. Et lui, Salah Abdeslam, 32 ans, le même âge qu'eux, contre lequel la réclusion à perpétuité incompressible a été requise.
La peine d'incompressibilité est une peine terrible. Il y a eu l'abolition de la peine de mort et la perpétuité incompressible, c'est une mort blanche vécue dans l'indifférence. A plaidé maître Olivia Ronen, 32 ans, le même âge que Salah Abdeslam.
Dimanche 26 juin, 11h, à 3 jours du verdict. 3 jours du verdict. Ces plaidoiries de la défense ont été très fortes, très libres, parfois... outrageante, mais J'étais extrêmement fier que notre système judiciaire permette cette parole-là et que ce procès n'ait pas tout étouffé. Et moi, il y a plein d'arguments que j'ai entendus qui font sens, et notamment sur Salah Abdeslam et cette peine de sûreté incompressible qui est vraiment une peine de mort. Moi, je dois dire que j'aurais été à la place de Martin Vett et Olivier Ronan. Je crois que j'aurais plaidé pour la peine de mort en disant, plutôt que de torturer et de tuer mon client à petit feu, tuez-le tout de suite. Ce sera plus humain.
L'heure du verdict au procès des attentats du 13 novembre.
C'est vers 17h que la cour va commencer à lire son délibéré.
5 magistrats, tous professionnels, ont la lourde tâche de fixer la vérité judiciaire sur ce que la France a connu de pire au 21e siècle. Les réquisitions vont de 5 ans de prison pour les petites mains à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam.
On est le 29 juin, il est 8h57. Je viens de déposer mes enfants à l'école et je pars au palais. Parce que ça y est, cette fois on y est. Je me rappelle, j'avais eu exactement cette expression la veille du début du procès. Bah, cette fois on y est au verdict. C'est une énorme journée qui s'annonce pour moi. Maintenant, voilà, il va falloir à la fois passer cette journée et en profiter. Parce que tu avais raison, Arthur, quand tu disais que c'est important d'en profiter aussi de ces derniers moments et de vivre cette aventure jusqu'au bout. Même si pour moi, les jours de verdict, c'est toujours un peu compliqué. J'ai toujours mal au ventre juste avant que le verdict soit prononcé. Je trouve que c'est d'une violence, en fait. Qu'importe ce que les accusés ont commis, qu'importe l'horreur des faits, j'ai toujours ce moment où le couperet va tomber, que je trouve extrêmement difficile à vivre.
Bonsoir à tous. La lecture du verdict du procès des attentats du 13 novembre a débuté il y a 40 minutes à la cour d'assises spéciale de Paris. Et donc, les peines vont de 2 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. La perpétuité incompressible même pour Salah Abdeslam.
Oui, tout à fait. Cette peine de perpétuité incompressible, hein, celle qui n'a été précédemment prononcée qu'à 4 reprises dans l'histoire judiciaire française, a donc été décidée conformément aux réquisitions du parquet national antiterroriste à l'encontre du seul survivant des commandos terroristes. La cour a notamment retenu à son encontre le fait que son gilet explosif n'était pas fonctionnel, a précisé le président dans la lecture de ce délibéré, ce qui remet en cause ses déclarations quant à son renoncement, a-t-il dit. Rappelons que Salah Abdeslam, seul survivant des commandos donc, avait déclaré au cours de ce procès avoir décidé de ne pas déclencher sa ceinture explosive comme prévu dans un café du 18e arrondissement, déclenchement auquel il avait renoncé par humanité, avait-il dit. Ça avait été ses mots après avoir vu des jeunes y boire et danser.
Ce que j'attendais surtout, c'était d'entendre le mot « on vous reconnaît coupable ».
C'est du soulagement de se dire « ok, c'est passé ».
Et Charlotte, les 19 autres accusés écopent eux aussi pour une grande majorité de lourdes peines de prison.
Ah oui, alors ces peines vont de 2 ans de prison pour Farid Karkash, le fournisseur de faux papiers pour la cellule terroriste et le seul pour lequel la culpabilité n'a pas été retenue dans l'infraction pour laquelle il comparaissait, à savoir association de malfaiteurs terroristes. Farid Karkash est condamné pour une association de malfaiteurs simple en vue de commettre des escroqueries. Il va pouvoir sortir de prison immédiatement puisqu'il a déjà effectué bien plus que 2 ans de détention provisoire. Eux, d'autres n'y retourneront pas en détention. C'est, en tout cas, si l'on en croit le président ce soir, qu'il a précisé pour les accusés qui comparaissaient libres à cette audience. Ils étaient 3, que les peines prononcées à leurs égards, allant de 1 à 4 ans ferme, leur permettaient d'obtenir un aménagement en dehors des murs d'une prison, quand le parquet national antiterroriste lui avait réclamé un mandat de dépôt à leur encontre. Notons enfin que ce verdict, vous l'avez dit, mais globalement assez en dessous des réquisitions du parquet national antiterroriste.
Je crois que c'était un verdict juste. J'ai vu les visages des autres partie civile dans la salle quand on a dit que les 3 accusés qui comparaissaient libres sortaient libres et tout le monde avait l'air satisfait.
Sur les 5 peines de perpétuité réclamées, seules 2 ont été prononcées à l'encontre de Mohamed Abrini, l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles et donc de Salah Abdeslam, on le rappelle, pour qui une peine de réclusion à perpétuité incompressible a été prononcée ce soir.
Merci Charlotte Piret en direct de la cour d'assises spéciale de Paris.
Quelle aventure, quelle journée hier. Le verdict, l'annonce des peines, la folie des médias. En fait, je me rends compte que le procès a été difficile à partager, mais que le verdict simplifie tout, apporte une conclusion qui permet de partager. Et donc j'ai l'impression que
C'est aussi la beauté d'un verdict d'être partageable. Je ne savais pas comment je me sentais jusqu'à recevoir tout à l'heure un message de quelqu'un qui me dit « J'espère qu'après tout ça, tu seras plus serein. » Et en fait, c'est ce que je suis ce soir, serein. C'est joli ce mot, et puis ça répond très bien à la tranquillité impossible, la sérénité. Je me sens beaucoup plus léger, je me sens beaucoup plus libre, et je crois surtout que j'ai compris ce que j'avais toujours voulu faire, en fait. C'est être l'exact inverse d'un terroriste, d'être le plus humaniste possible, le plus à l'écoute, d'être le plus dans la justice. Et c'était un peu cette apothéose-là hier.
Dans le prochain épisode, que restera-t-il de ce procès ? Au-delà du verdict, de l'expérience professionnelle, c'est sans doute les liens qui s'y sont tissés. 13 novembre, 3 voix pour un procès, est un podcast original de France Inter.